pour bénir nos frères et sœurs. Je vais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le passage d'aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif afin de gagner le fils, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remercions pour ce passage. Merci pour la vérité qui révèle qui tu es et comment nous pouvons vivre. Nous te demandons aujourd'hui, alors que nous regardons ce passage ensemble, que tu ouvres nos yeux, que nous puissions voir ta gloire, ouvre nos yeux, que nous puissions entendre nos oreilles afin que nous puissions entendre ta voix et dispose nos cœurs à écouter je transforme-nous afin que tu sois glorifié. Dans tout ce que nous faisons, j'ai prié au nom de Jésus. Bonjour, je m'appelle Brett, je suis le pasteur de notre église à Coquitlam, campus de Coquitlam. Aujourd'hui, alors que nous allons passer sur ce passage, 1 Corinthiens 9, 19, 23, parfois je me demande comment je suis arrivé ici, je ne sais pas pour vous. Je ne parle pas physiquement, je veux dire, je me demande comment je suis devenu disciple de Jésus. Quand j'y pense, je suis un peu dans... Ça fait 20 ans. Je suis un peu dans l'émerveillement devant Dieu parce que, honnêtement, ce n'était pas mon idée. Quand vous arrivez à un endroit pareil dimanche matin, et alors que certains d'entre nous viennent servir, comment sommes-nous tous venus à aimer, à servir un rabbin charpentier, né il y a 2000 ans? Si vous êtes disciple de Jésus, alors vous avez peut-être une idée de cela. Vous devez savoir que Dieu est à l'œuvre dans votre vie de 10 000 manières que vous ne pourrez comprendre que plus tard, en regardant en arrière à un moment donné dans le futur, et vous rirez peut-être de voir à quel point il est merveilleux. Voyez-vous? Si le christianisme consistait simplement à découvrir une philosophie, alors nous pourrions nous attribuer le mérite d'être assez intelligents. Mais l'Évangile dit que Dieu nous a cherchés alors que nous ne le cherchions même pas. Le Christ est entré dans nos vies, a payé nos dettes et nous a donné une vie nouvelle. Certains d'entre vous sont comme moi, vous êtes venus à la foi en Jésus sans avoir été élevés dans l'Église. J'avais presque 20 ans, je me souviens du moment où il y a un jour où je n'étais pas chrétien, puis il y a eu un jour où je l'étais, c'est progressif. Certains d'entre vous ont peut-être grandi dans l'Église et lisant la Bible depuis que vous avez été enfant et marché. Et peut-être saviez-vous là où vous allez servir. Et si vos parents étaient chrétiens et leurs parents étaient chrétiens et vous êtes venus, vous voyez par exemple la généalogie, comment votre famille est entrée dedans. Je suis absolument fasciné par... C'est là parce que chaque histoire dans cette pièce a un signe de la grâce de Dieu. Et mon point, c'est que chacun d'entre nous a eu quelqu'un qui nous a communiqué l'Évangile de Jésus d'une manière qui a fait du sens, d'une manière que nous pouvions comprendre. À un moment donné de nos vies, quelqu'un nous a assez aimés pour nous partager l'Évangile d'une manière que nous puissions comprendre. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Partager l'Évangile de Jésus, partager la bonne nouvelle que Dieu sauve le pécheur comme moi c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre de l'œuvre de Christ. Mon ami Darrell Johnson dit toujours, l'évangélisation c'est rejoindre une conversation que le Saint-Esprit a déjà avec une autre personne. J'aime ça parce que ça montre comment Dieu est avant nous, à un moment donné dans nos vies, quelqu'un a décidé de prendre un risque et de se joindre à la conversation que Dieu avait déjà avec nous. Et c'est ce que Paul a fait au premier siècle lorsqu'il est arrivé à Corinthe. Et ces paroles dans ces textes vont aider à façonner notre réflexion sur la posture que nous sommes appelés à adopter si nous voulons être les gens des personnes ou les gens des communautés qui aident à présenter toutes sortes de personnes à Jésus. Alors, je vais vous donner le point d'aujourd'hui sur lequel nous allons discuter. La liberté au cœur du serviteur, premièrement, l'accommodation de l'évangéliste et la proclamation complète. La liberté au cœur du serviteur, 1, l'accommodation évangélistique, 2, et la proclamation complète. Je voudrais que vous puissiez tourner votre attention avec moi au verset 19. L'apôtre il dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » L'apôtre Paul est celui qui écrit et il dit au milieu d'une réflexion sur la liberté qu'il a renoncé ses droits, de renoncer à ce qui lui est dû pour l'Évangile. Il souligne qu'il n'est lié à personne. Il est libre. Mais sa liberté a un but. Il est libre de l'asservissement à tout être humain qui chercherait à le contrôler. Mais il est aussi libre pour devenir un serviteur ou un esclave de tous, afin de gagner un plus grand nombre d'entre eux à Jésus. Il parle de gagner les gens à Christ. Il parle de l'évangélisation, de rendre témoignage à la vérité de qui Dieu est et de ce qu'il a accompli en Christ, afin de gagner plus de personnes pour le royaume de Dieu. Voyez-vous, Paul connaît sa lignée spirituelle. Il sait comment il est devenu un disciple de Jésus. La vie de Paul a été transformée par une rencontre avec Jésus et maintenant il vit comme un serviteur de tous qui veut gagner plus de gens à Christ. C'est ça sa vie. Il a une liberté totale, mais il est prêt à renoncer à ses droits et à devenir le serviteur de tous pour le salut des autres. Cela ressemble à quelqu'un? Philippiens 2, parlant de Jésus. « Ayez en vous les sentiments, Paul dit, qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous, Jésus-Christ avait une liberté totale, mais a volontairement renoncé à ses droits et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et a pris la forme d'un serviteur, s'humiliant jusqu'à dans son obéissance à la volonté de Dieu, le Père, au point qu'il a donné sa vie pour nous tous. Jésus ne nous a pas seulement donné un modèle d'humilité, il en a porté l'humiliation que nous méritions. Il n'a pas seulement renoncé à ses droits, il a renoncé à la gloire afin que les pécheurs puissent être ramenés à la maison. Tant que vous ne le verrez pas faire cela pour vous, vous ne serez jamais libre de renoncer à vos droits pour les autres. Regardons encore le texte, verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » C'est la réalité de ce à quoi ressemble la vie lorsque vous avez eu une rencontre salvatrice avec Jésus. Le premier point, la liberté au cœur du serviteur. Et le point 2, l'accommodation évangélistique. Laissez-moi vous montrer, regardez le verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je ne suis pas sûr Paul vivait à la génération où la vie venait avant. Je pense qu'il... Quel que soit, il dit, je deviens tout... Et ça, c'est on voit ça. Souvenez-vous, il écrit à certaines personnes avec qui il est resté. Et probablement, il a évangélisé les Juifs à Corinthe afin qu'ils les gagnent à Christ. Il a certainement évangélisé les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, ceux qui sont en dehors de la loi, afin qu'ils les gagnent à Christ. Il a certainement évangélisé les faibles, ceux qui étaient ignorés par les autres à cause de leur statut social ou de leur pauvreté. On parle ici des esclaves, des pauvres, des marginalisés. Et il a évangélisé les faibles afin de les gagner à Christ. Alors, donc, il a parlé largement. Il a tous les groupes de la société. Et donc, pour parler largement, laissez-moi dire ceci, il était déterminé à accommoder les particularités uniques de chaque groupe de personnes afin de pouvoir les gagner à Christ. C'est cet homme qui est tout aussi à l'aise pour partager l'amour de Christ qu'il a expérimenté en Christ avec les très religieux, les totalement irreligieux et les exclus sociaux. Il est confortable à partager l'amour de Dieu avec qui que ce soit. Regardez au verset 20, la première partie. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, vous ne le savez peut-être pas. Paul était Juif, donc cela semble vraiment étrange. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Mais il est littéralement, il est Juif. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous avez une rencontre avec Jésus, lorsque vous entendez le message de l'Évangile, que Dieu sauve les pécheurs, lorsque vous réalisez et admettez que vous êtes un pécheur ayant besoin d'être sauvé et que vous voyez que Dieu est la seule voie de salut, tout le reste s'efface. Jésus crucifié et ressuscité devient le nouveau centre de votre vie et de tout le reste est repoussé à la marge. C'est de cela qu'il parle. Paul est tellement transformé par l'Évangile environ 20 ans avant d'écrire cette lettre, qu'il a besoin de... il est si transformé qu'il a besoin, alors qu'il écrit ça, il dit qu'il veut être comme un juif pour atteindre les juifs. Un érudit qui s'appelle N.T. Wright écrit « Un juif n'était pas l'identité fondamentale de Paul ». Car ce n'était plus ce qu'il était au niveau le plus profond. Qui est-il au niveau le plus profond? Un disciple de Jésus. Libre de tous, mais serviteur de tous pour l'amour de l'Évangile. Il n'a plus besoin de s'accrocher au marqueur identitaire qui était autrefois si important pour lui dans son identité fondamentale d'homme juif. Il n'est plus préoccupé par les lois alimentaires, la circoncision, le sabbat ou les fêtes spéciales, de la façon dont il était besoin. Mais voici, et je pense que ceci est important, quand il est avec le peuple juif, il est prêt à s'accommoder à eux pour pouvoir se faire entendre pour l'Évangile. Son principe directeur est qu'il fera tout sauf péché. Pour les gagner à Jésus. Un grand exemple, ce serait celui des missionnaires qui alla en Chine. Quand il arrivait à un endroit en Chine, il ressemblait à un Anglais, il s'habillait comme un Anglais. Et ses cheveux, sa façon de parler, sa façon de manger... Et il n'était pas encore, il s'était pas encore accommodé à la culture chinoise. Il voulait pas entendre ce qu'il disait. Mais qu'est-ce qu'il a fini? Il a commencé à s'habiller différemment. Il commença à s'habiller comme les gens autour de lui. Il commença à fixer ses cheveux. Il a teinté ses cheveux. Je sais pas comment il a fait à cette époque. Je ne sais pas quel produit il aurait utilisé, mais ce serait une aventure intéressante de savoir. Il a coupé ses cheveux différemment pour paraître comme les autres et il a commencé à vivre comme les Chinois. Il a fait cela afin qu'il puisse gagner, pour qu'il puisse apporter l'Évangile. Quand Paul essaye d'évangéliser les Juifs, regardez le deuxième point, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont dans la loi. Quand il évangélise les Juifs sous la loi, comme s'ils n'étaient pas sous la loi, il ne va pas essayer de leur faire manger de la nourriture que leur loi interdit et de les faire travailler avec lui pour le jour de sabbat, quelque chose comme ça. Il s'accommodera avec eux sur des choses qui n'ont finalement pas d'importance, afin qu'ils l'écoutent sur la seule chose qui a finalement de l'importance. C'est ce qu'il est en train de faire. Je me souviens, il y a quelques 12 ans, j'avais des amis qui vivaient avec 5 amis dans la maison, tous serviteurs de Dieu, et ils voulaient utiliser cette grande maison pour quand même partager la parole de Dieu, et ils ont organisé une grande fête. Ils ont vendu quelques 100 tickets. Si vous pouvez acheter le ticket, il y aurait là et venir. Mais ils ont reconnu que dans le quartier, ça pouvait faire des problèmes. Alors, ils ont invité tous les autres. Ils leur ont dit, ne craignez pas, ça ne va pas une fête folle, mais c'est pour une cause. Le thème était hawaïen. Alors, je devais les aider pour creuser, pour faire un rôti. Et les voisins sont venus, ils ne savaient pas c'est quoi, de quoi ils en seraient. Et puis, il y a des voisins qui sont venus, qui étaient des Juifs. Je ne pouvais pas envoyer un Juif un sabbat, le jour de sabbat, avec préparer le porc. C'était une bonne intention, mais une mauvaise exécution. Des fois, on doit savoir ce qui se passe. D'accord? Et Paul applique le même principe aux religieux, aux exclus sociaux qu'il a appliqué aux très religieux, ce qui signifie qu'il est prêt à s'accommoder socialement à eux, tant que cela ne le conduisait pas au péché, afin de pouvoir se faire entendre pour l'Évangile. Il s'accommodera à eux sur des choses qui n'ont finalement pas d'importance, afin qu'ils écoutent sur la chose qui a finalement de l'importance. Regardez à nouveau le texte. Il dit, « Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. » Cela signifie que Paul est prêt à changer le message de l'Évangile afin de pouvoir se faire entendre par différents types de personnes, des milieux différents qui pensent que différentes choses sont importantes. Non, il adapte la méthode, c'est pas ce qu'il fait. Il adapte la méthode, pas le message. Son Évangile est fidèle et son approche est flexible. Il faut que vous m'entendiez. Pendant 2000 ans, toutes sortes de personnes, de toutes sortes de cultures, des milieux, avec toutes sortes d'histoires, de toutes générations, parlant toutes sortes de langues, ont été présentées à Jésus de toutes sortes de manières, parce que les chrétiens sont guidés par le verset de l'Écriture où Paul dit « Je me suis fait toutes choses à tous les hommes, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Cet évangile est pour les très riches, les très religieux, les totalement irreligieux, les exclus sociaux et tous ceux qui se situent entre les deux. L'évangile de Jésus est si totalement complet qu'il peut être compris par toutes sortes de personnes. C'est comment Dieu est bon pour nous. Et c'est ce que Paul va dire à la fin de cette section de sa lettre. 1 Corinthiens 10, 32, 11. « Ne soyez pas scandaleux ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, ne cherchant pas mon propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'exemple de Paul ici, c'est Jésus. Réfléchissez-y. Paul suggère que nous accommodions certaines pratiques culturelles et relationnelles différentes afin d'obtenir une audience pour l'Évangile, pour que nous puissions gagner les gens à Christ, pour que nous puissions les voir sauvés. C'est pas seulement une accommodation pratique, rationnelle et logique des différentes cultures et pratiques pour que nous puissions être gentils et mettre un pied dans la porte. C'est en fait ce que Dieu a fait pour nous en envoyant son Fils. Phoebe Perkins a dit, bien qu'il soit possible de traiter cette stratégie d'accommodation à des publics divers comme un simple pragmatisme, les écrivains chrétiens primitifs ont reconnu que Paul faisait référence à la condescendance de Dieu en devenant humain. Nous pensons généralement à la condescendance comme quelque chose de négatif, mais quelqu'un qui vous regarde haut, mais théologiquement, la condescendance de Dieu est belle. C'est sa volonté de se pencher, de nous rencontrer dans notre faiblesse. Quand Paul devient tout à tous, il imite cette posture même, cette humilité d'un Dieu qui s'est fait homme pour nous. Encore une fois, si nous réfléchissons à propos de toute révélation et tous les dévoilements de la nature ou du caractère de Dieu à travers tous les temps, est un Dieu infini qui accommode sa création infinie. Il nous accommode afin que nous puissions le connaître, comprendre comment il veut que nous vivions. Ainsi, dans son évangélisme, Paul suit l'exemple de Jésus. Mais je veux désespérément que vous voyez cela, que cela n'est possible qu'en raison de la nature écrasamment complète de l'évangile. Paul ne peut dire « Je me suis fait toutes choses à tous les hommes afin d'en sauver de toute manière quelques-uns » que si la nature de l'évangile est universellement applicable, et elle l'est. J'ai dit que l'évangile de Jésus est si totalement complet, qu'il peut être compris par toutes sortes de personnes. Mais c'est là que vous intervenez. Vous devez appliquer ces principes dans votre évangélisation pour rendre le message de l'évangile compréhensible. Chaque fois que nous voulons communiquer l'Évangile, nous devons essayer de le rendre compréhensible. Nous devons essayer de contextualiser le message pour qu'il puisse être entendu. Tim Keller, il a dit « Une contextualisation saine signifie traduire et adapter la communication et le ministère de l'Évangile à une culture particulière sans compromettre l'essence et les particularités de l'Évangile lui-même. » C'est important que nous contextualisions l'Évangile fidèlement. Y a-t-il des limites à notre accommodation? Bien sûr. J'ai dit que Paul adapte la méthode, pas le message. Son Évangile est fidèle et son approche est flexible. D'un côté, on doit comprendre si vous adaptez le message pour la culture à laquelle vous adressez les nous devons savoir que quand nous sommes comme par exemple dans une autoroute, c'est être au milieu et d'être flexible, de savoir quand aller de l'autre côté ou de l'autre côté. Et de l'autre côté, si vous adaptez le message pour la culture à laquelle vous vous adressez, si vous engagez dans une fossée que nous appellerions la surcontextualisation, ce qui compromet le message de l'Évangile, cela ne mène jamais à une transformation. Jamais, 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 ça n'amène jamais à une transformation de l'Évangile. Tu compromets l'Évangile, c'est fini, tu es allé, tu vas dans la fosse. De l'autre côté, si vous refusez d'être flexible dans l'approche que vous adoptez pour partager fidèlement l'Évangile, vous semblerez si étranger et alien à la culture que personne ne pourra le comprendre. Ce qui signifie que vous vous engagez dans le fossé de la sous-contextualisation. Cela non plus ne mène jamais à une transformation. Jésus prie à ces sujets dans Jean 14, Jean 17, qui nous rappelle à être dans le monde, mais pas du monde. La sur-contextualisation signifie que vous êtes du monde, où il n'y a vraiment aucune différenciation entre l'Église de Jésus et la culture qui l'entoure. La sous-contextualisation, ça c'est la sur-contextualisation. D'autre part, la sous-contextualisation signifie que vous êtes si étranger dans la façon dont vous parlez de Dieu que vous n'êtes pas correctement dans le monde. Vous n'êtes pas présent pour les bénir avec l'Évangile. Une contextualisation fidèle signifie que vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Présent pour bénir, mais vous ne faites pas de compromis avec le message. Voyez, Jésus n'a pas seulement ajusté ses pratiques culturelles. Jésus a quitté le ciel et il est entré dans notre culture brisée, devenant l'un de nous pour nous sauver. C'est pourquoi la contextualisation n'est pas seulement une stratégie, c'est le modèle de notre mission à la forme de Christ. Vous devez voir comment Paul est inébranlable dans son message de l'Évangile, flexible dans son approche, mais fidèle dans le contenu. Et on revient à 1 Corinthiens 1, 22, où il dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Tout ce qu'il dit, c'est que s'il doit y avoir une offense dans notre évangélisation, assurez-vous que la seule offense, le seul obstacle, soit le scandale de la croix. Paul est inébranlable dans son message de l'Évangile et Paul est inébranlable dans les attentes morales de ce que signifie de suivre Jésus. Dans cette lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, il a déjà abordé l'unité de l'Église, leur éthique sexuelle, la façon dont ils se rapportent au salut social dans la ville, comment ils sont appelés à préférer les autres à soi-même, rejeter les idoles. Et tout cela, il ne compromet rien. Paul n'accommode pas les faux enseignements ou quoi que ce soit qui compromet l'Évangile. Mais en ce qui concerne tous les restes, je me suis fait toutes choses à tous les hommes afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Laissez-moi l'aborder sous un angle différent. On a parlé de la liberté au cœur de serviteur, l'accommodation et de l'évangélistique. Parlons maintenant de la proclamation complète. Il existe une petite brochure intitulée « The 3D Gospel Ministry in Guilt, Shame and Fear Culture » et d'un homme nommé Jason George. Dans ce livre, il parle de groupalité comme la personnalité, mais pour un groupe de personnes. Je vais vous lire un passage pour que vous puissiez comprendre. Il dit que les missiologues chrétiens qui ont étudié ont identifié trois réponses au péché dans les cultures humaines, la culpabilité, la honte et la peur. Ces trois émotions morales sont devenues le fondement de trois types de cultures. Les cultures comme culpabilité et innocence sont des sociétés individualistes, surtout occidentales, où les personnes qui enfreignent les lois sont coupables et cherchent la justice ou le pardon pour rectifier le tort. Deux, la culture honte-honneur décrivent les cultures collectives communes en Orient où les personnes honteuses de ne pas avoir rempli les attentes du groupe cherchent à les restaurer leur honneur devant la culture. Et trois, les cultures de peur-pouvoir se réfèrent à des contextes animistes, généralement des tribaux et africains, où les personnes craignant le mal et le malheur poursuivent le pouvoir sur le monde des esprits par les rites magiques. Bon, okay. Ces idées dominantes dans différents contextes culturels forment notre groupalité. Si je reviens à mon point. Ces idées dominantes dans différents contextes culturels forment notre groupalité. Pour que vous sachiez, si votre réponse est... Personne ne me dit comment penser à ces sujets. Je suis ma propre personne. C'est ainsi que vous savez que vous faites définitivement parler de partie de la culture occidentale individualisée. L'Évangile parle à tous. Le point, l'Évangile parle à tous. L'Évangile traite de la culpabilité, de la honte et de la peur. Mais à moins que vous ne sachiez à qui vous parlez et que vous avez d'une certaine manière mis de côté votre façon de penser par défaut, votre groupalité et que vous vous soyez accommodé à leur compréhension, vous pourriez prêcher la vérité à quelqu'un qui ne peut littéralement pas comprendre ce que vous voulez dire. Pensez à propos de cela. Si vous êtes ici, vous êtes malade, vous allez chez votre docteur, n'est-ce pas? Si vous êtes vraiment malade, vous pouvez aller, on va aller vous soigner, faire un diagnostic. On avait beaucoup de sortes de médecine et on comprend comment les choses se passent. Mais à certains endroits du monde, si vous êtes malade, vous n'allez pas à l'hôpital. Vous allez chez une personne qui peut dealer, faire face aux mauvais esprits. Voyez-vous, dans notre à l'ouest ici, on ne pense pas de réalité spirituelle du monde. Mais dans d'autres parties du monde, s'ils sont malades, ils vont rechercher, voir les choses par l'esprit. Ou on va te libérer des esprits qui t'ont rendu malade. On peut parler de la même façon, mais on passe à côté de l'un de l'autre parce qu'on comprend pas, on comprend différemment comment le monde fonctionne. C'est comme si une radio était syntonisée sur la mauvaise fréquence. L'évangile d'un Jésus crucifié et ressuscité traite. Mais l'évangile d'un Jésus crucifié et ressuscité traite toute notre culpabilité. Toute notre honte, toute notre peur, ça traite tout cela. Mais si nous voulons communiquer le caractère complet de cet évangile, nous devons comprendre à qui nous parlons, syntoniser la bonne fréquence afin que nous puissions obtenir une audience. Je veux juste dire que dans notre évangélisme, nous devrions poser plus de questions et entendre que de parler. Je sais que Dieu utilise les gens différemment à travers le monde, mais la plupart des fois, il faut s'asseoir, poser des questions, parce que si vous ne le faites pas et si vous ne comprenez pas la personne avec qui vous parlez, vous allez commencer à répondre à des questions qu'ils n'ont jamais posées. Juste une autre façon de voir cela. Ce que signifie devenir toute chose à tous et d'appliquer ces choses dans notre vie. C'est ce qui dit que nous devenons... devenir toute chose à tous les hommes afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voyez-vous, sur la croix, Jésus est mort pour expier vos péchés. Il a pris sur lui la culpabilité de tout votre péché. Et quand vous vous repentez et que vous tournez pour le suivre, il vous donne une juste position devant Dieu et vous êtes pardonné et purifié. Et la tâche de cette culpabilité est enlevée par la grâce. Par la foi en Christ, vous avez la rédemption, le pardon des péchés. Mais sur la croix, il est mort pour expier nos péchés. Il a écrit sur lui la honte de tous nos péchés. Et quand nous nous repentons des manières dont nous l'avons déshonoré par notre vie, et on se tourne vers lui. Il t'appelle, il ne se détourne pas. Pas son visage de toi, il n'a pas honte de vous, mais vous appelle par son nom, mais il vous appelle par votre nom. Vous êtes à lui, il est à vous, et ceci est votre famille. Sur la croix, Jésus est mort pour expier vos péchés. Là où vous avez été vaincu par la tentation du malin, Jésus ne l'a pas été. Sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle et en a triomphé. Dans sa résurrection, ayant vécu Satan, le péché, la mort et l'enfer et les séjours des morts, il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et croient à la puissance victorieuse du Saint-Esprit. Il vous donne la puissance de résister à l'ennemi et à la puissance d'obéir à Dieu. Il vous a délivré de tout pouvoir des ténèbres et vous a transformé dans le royaume de son Fils bien-aimé. Sur la croix, il est mort et son évangile parle de la honte. Et l'évangile est multifacette en réalité. Nous avons tous besoin de ces trois aspects de l'évangile, tous ensemble. D'une certaine manière, chacun d'entre nous qui croyons l'évangile, nous pouvons retracer l'arbre généalogique spirituel jusqu'à quelqu'un qui s'est engagé à la communiquer d'une manière que nous pouvions le comprendre. Alors, peu importe comment vous êtes arrivé ici par la famille, un ami ou un moment surprenant de rencontre, le point est le même. Aucun de nous n'est ici par accident. Comment vous êtes arrivé ici? Le point, c'est que ce n'est pas par accident. Dieu nous a poursuivis quand nous ne le poursuivions pas. Et parce qu'il l'a fait, nous sommes aujourd'hui appelés à être le genre de personnes qui ouvrent leur bouche, prenant un risque et partageant ces mêmes bonnes nouvelles avec les autres. Dans notre façon d'évangéliser, on s'adapte. Il nous est rappelé que la vérité de l'Évangile, c'est la vérité envers toute personne, quoi que nous soyons et qui que nous soyons, l'œuvre de Dieu est suffisante pour notre salut. Pouvez-vous imaginer ce que Dieu ferait dans l'Évangile de Grand Vancouver si nous mettions tous de côté nos préférences pour le bien des autres, si nous mettions tous de côté nos libertés pour pouvoir être les serviteurs de tous, et quoi que cette ville pourrait rassembler si nous choisissons aujourd'hui de venir toutes choses à tous les hommes afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Quelle merveilleuse histoire dans laquelle nous sommes appelés à participer, la rédemption de Dieu. C'est une bonne chose, une belle chose.